Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accent. Et on commence avec cette question. Comment réagir face à la recrudescence de décès dus à des drogues altérées ou trop fortes dans le nord de l'Angleterre, à Preston exactement? Il sera bientôt possible de tester la qualité de sa cocaïne ou de son ecstasy avant d'aller en boîte faire la fête. Le projet créé par l'association de prévention The Loop a recueilli le soutien de la police car les autorités semblent impuissantes à endiguer le nombre de morts. En 2014, 2250 personnes sont décédées à cause de la mauvaise qualité des produits ingérés. Marie Billon nous appelle de Londres.
Le but n'est pas de passer par ces cabines de testage comme on passe par le vestiaire avant d'aller danser, mais les autorités préfèrent voir plus de jeunes faire la queue ici qu'aux urgences. L'association Loop a décidé d'installer ces cabines pour que les usagers des drogues dures et illégales testent leurs produits. Il suffirait donc de donner un échantillon de sa drogue au testeur. Grâce à des équipements dernier cri, ce dernier fera les vérifications nécessaires et rendra rapidement le résultat, mais il ne rendra pas la substance. Elle devra être détruite, c'est la condition pour que ces tests soient légaux. Et ce n'est pas non plus un piège. La police aurait promis de ne pas concentrer ses contrôles sur ceux qui seraient allés faire ces tests. En fait, l'association Loop a voulu installer ce système parce que le nombre de décès liés à la qualité des drogues de classe A serait en constante augmentation depuis 1993, avec un léger ralentissement en 2012 uniquement. Quand ces tests ont été proposés dans plusieurs festivals l'été dernier, un usager sur cinq parmi les 300 qui ont fait le test ont, semble-t-il, décidé de ne pas consommer la substance en leur possession, selon le journal The Independent. Mais l'initiative a aussi ses détracteurs. Nombre de spécialistes en toxicologie estiment que ces cabines de testage envoient le pire message possible. L'usage de drogue n'est pas obligatoirement dangereux, car pourquoi sinon tester les substances individuellement? Cela aussi normaliserait l'usage de la drogue, sauf que c'est oublié qu'au Royaume-Uni, il est rare de rencontrer un fêtard qui n'a jamais fait l'essai. Pour Loop, rien ne sert donc de faire la politique de l'autruche.
I went on my Erasmus several years ago. It changes things.
C'est le programme européen le plus connu et sans doute le plus apprécié. Une exception à l'heure où l'Union européenne essuie une pluie de critiques. Erasmus fête ses 30 ans. Il a permis à près de 4 millions d'étudiants de partir à l'étranger en échange universitaire ou en stage. Erasmus est devenu depuis 2 ans Erasmus+. Un nouveau programme, un budget plus conséquent et une ouverture à plus de personnes comme les apprentis. Choisir l'expérience Erasmus et partir loin de son pays, de sa famille, de ses repères, pour peut-être parfois trouver l'amour. Erasmus, 30 ans de découverte de l'autre, c'est le reportage à Bruxelles de Lax Milota.
Vous parlez français comme ça.
C'était l'examen.
Nous sommes au cours de français intensif à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Ici, les étudiants Erasmus viennent améliorer leur compréhension de la langue. Originaires d'Italie, d'Espagne, de Pologne, de Suède ou encore de Chine.
Mi piace l'Erasmus.
Coham Erasmus.
Io amo l'Erasmus.
Yo elsker Erasmus.
Première motivation de ces étudiants voyageurs, apprendre rapidement une nouvelle langue. Simone est italien, il étudie l'architecture.
Avant de venir ici, j'ai jamais étudié français, mais en 4 mois, je peux comprendre la télé, la leçon du professeur, je peux parler un peu.
Martina, étudiante en sciences politiques, est partie à Berlin il y a 3 ans. Séduite, elle retente l'expérience en Belgique. Pour elle, Erasmus, c'est la découverte de l'autre.
J'aime cette connexion avec des gens qui sont différents. Avec un peu d'espagnol, un peu du français, un peu d'anglais, un peu d'allemagne, je peux communiquer avec beaucoup de gens que j'ai connus dans cette expérience. C'est magnifique, j'ai beaucoup d'amis dans toute l'Europe maintenant. Tu peux manger choses que tu ne connais pas, tu peux aller dans lieux que tu ne peux pas imaginer.
Il y a 30 ans, le projet a pourtant fait face à un blocage politique. Christophe Leclerc, fondateur du média Euractiv, était à l'époque étudiant. Avec d'autres, il est parti convaincre les dirigeants européens de la nécessité d'Erasmus.
À Londres, on a été reçu par le cabinet du Premier ministre, Margaret Thatcher, qui n'était pas aussi anti-européenne qu'on peut le percevoir aujourd'hui. à Bonn par le cabinet du chancelier Kohl. Et notre moment de gloire, si je peux le dire comme ça, ça a été un déjeuner avec le président François Mitterrand, qui a vraiment eu une impulsion décisive.
Erasmus est finalement créé en 1987, devient Erasmus Plus en 2014 avec de nouvelles perspectives. Jean Arthuis, eurodéputé, au micro de Quentin Dickinson.
Ce que nous voulons, c'est que Erasmus ne soit pas qu'au profit des étudiants, qu'Erasmus soit au profit de tous les jeunes et notamment des apprentis. Et donc ce que nous voulons, c'est coupler l'apprentissage de longue durée et Erasmus.
Encore plus de voyageurs pour encore plus de rencontres. Selon un questionnaire envoyé par la Commission européenne à 80 000 anciens étudiants, une personne sur quatre a rencontré l'homme ou la femme de sa vie dans le cadre de ce programme. C'est le cas d'Éric Courtois, belge, qui a épousé Inès, espagnole, après un séjour Erasmus en Norvège.
Comme toute histoire d'amour, mais c'est vrai que c'était très inattendu. Il y a évidemment quelque chose, une petite étincelle au départ, mais on s'est marié quelques années plus tard, on a trois enfants. C'est la surprise, en effet, de l'Erasmus.
Son épouse, Inès, se souvient de leur rencontre.
On est arrivé à la table et lui, il a resté très, je dirais, pas trop bavardeur, on va dire, mais par contre, il avait un regard très profond comme ça, très intéressant. Ce que je trouve super important de l'Erasmus, c'est que ça a créé un peu plus de couples européens et donc ça a rassemblé des gens. Et ça pourrait quand même nous aider peut-être à nous sentir tous un peu plus européennes et créer plus de cohésion entre l'Europe.
Martina et Simonet, étudiants Erasmus d'aujourd'hui, pensent-ils à trouver l'amour ?
Pas l'amour, mais un travail. Je ne sais pas, je voudrais avoir un copain, un partenaire étranger, ça c'est sûr.
Je suis ici avec mon petit ami, je ne peux pas.
Erasmus ne conduit pas forcément au mariage, mais le taux de chômage chez les étudiants mobiles est 23% moins élevé que chez ceux qui ne sont pas partis.
Commencer la nouvelle année par un divorce, eh bien, désormais plus besoin de passer devant le juge, sauf avis contraire. La dissolution du mariage sera désormais actée devant notaire. L'idée est de réduire en France les délais de la procédure et surtout de désencombrer les tribunaux surchargés. Alors, la France est-elle en avance par rapport à ses voisins et les couples mariés s'y séparent-ils plus qu'ailleurs ? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, les tribunaux français étaient-ils à ce point submergés, Daniel, par les demandes de divorce pour qu'on décide de les décharger de ces affaires ?
Il y a bien, on le sait, un grave problème d'encombrement des tribunaux français, notamment, mais pas seulement bien sûr, du fait des 123 500 divorces prononcés en 2014, dont près de 55% se sont faits par consentement mutuel, procédure qu'une loi de 2005 avait facilitée et généralisée. Mais alors qu'il avait triplé de 1975 à 2005, le nombre des divorces diminue depuis 10 ans, 30 000 jugements de moins ayant été prononcés l'an dernier par rapport à 2005. Un effet de la crise qui fait redouter encore davantage les conséquences financières d'une séparation, mais aussi la conséquence du recul constant de l'âge du mariage et de la hausse des remariages, qui sont des facteurs favorisant la stabilité des couples.
J'imagine que cette tendance est générale en Europe.
C'est bien la tendance dans tous les pays se situant autour du taux moyen de divorce dans l'Union européenne, qui est de 2 pour 1000 habitants. C'est le cas de la France, comme de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne ou des Pays-Bas. En revanche, le nombre de divorces stagne ou augmente dans les pays où l'on divorce plus qu'ailleurs, comme les pays scandinaves, où le taux de divorce va de 2,5 pour 1000 en Finlande à 3,4 au Danemark.
Daniel, est-ce parce que le divorce est plus facile au nord de l'Europe ?
En partie, c'est vrai. En Suède, par exemple, la procédure de divorce est écrite, assez simple, et ne se préoccupe plus des fautes éventuelles des conjoints. À l'issue d'un délai de réflexion de 6 mois à partir du début de la procédure, le divorce est quasi automatique. Mais en fait, si les divorces sont plus courants, en Scandinavie qu'ailleurs, c'est aussi parce que les mariages y sont plus nombreux, avec un taux de plus de 5 pour 1000 habitants, contre 4,6 en Allemagne, 3,8 en France et 3,2 en Italie. On se marie donc plus facilement dans le Nord et l'on divorce plus. Mais le ratio entre les mariages et les divorces, à 45 ou 47 pour 1000, n'est pas plus élevé qu'ailleurs, et il est même plus bas qu'en France, 50, ou qu'en Espagne, 55.
Le divorce qui est donc fréquent en Espagne, on peut être quelque peu surpris.
L'explosion l'explosion de la précarité et la multiplication des unions libres chez les jeunes dans un contexte de grande libération des mœurs explique le phénomène en Espagne où, par ailleurs, le divorce par consentement mutuel se fait selon une procédure assez simple de quelques semaines reposant sur les propositions des conjoints que le juge peut entériner rapidement. La situation est comparable au Portugal, où l'on dénombre 68% de divorces par rapport au mariage. Au sud de l'Europe, la péninsule ibérique reste toutefois une exception, car partout où la pratique religieuse reste élevée, le taux de divorce est bas, tournant autour de 1 pour 1000, tandis que le ratio divorce-mariage est en général inférieur à 30%. C'est le cas de l'Italie, de la Grèce, de la Croatie et surtout de Malte, pays où le divorce n'est autorisé que depuis 2011. Plus au nord, deux autres pays très catholiques divorcent peu, c'est la Pologne et par-dessus tout l'Irlande, où l'on ne compte que 13 divorces pour 100 mariages.
La législation explique-t-elle la rareté des divorces en Italie ?
Le divorce n'a été autorisé qu'en 1970 dans la péninsule et jusque-là, à l'instar du titre d'un film satirique des années 60, le divorce à l'italienne était synonyme d'assassinat. Même si depuis 1987 la procédure par consentement mutuel existe, elle est entourée de beaucoup de conditions, notamment une séparation d'au moins 3 ans. Les procédures sont donc longues et dans les faits, beaucoup d'Italiens se contentent de la séparation. Fait symptomatique d'une très grande prégnance de l'Église en Italie, les mariages religieux sont reconnus par l'État et ne nécessitent pas de mariage civil. Conséquence, en cas de divorce, celui-ci ne s'applique qu'aux effets civils du mariage.
Daniel, qu'en est-il chez nos voisins allemands ?
Les Allemands divorcent un peu plus fréquemment qu'en France, mais les mariages y sont également plus nombreux. Outre-Rhin, la notion de faute n'existe plus, alors qu'elle subsiste en France, et le divorce sanctionne simplement l'échec de l'union. Il est accordé après une séparation d'un an, pour peu que la demande soit présentée par les deux conjoints, mais après 3 ans de séparation, un seul conjoint est fondé à demander le divorce. Le prononcé de ce divorce est alors quasi automatique, mais, particularité allemande, il existe une clause de dureté du divorce qui permet au juge de le refuser, notamment dans l'intérêt des enfants mineurs.
Et puis on va terminer ce tour d'Europe par nos amis britanniques, Daniel.
En Angleterre et au Pays de Galles, la cause ouvrant droit au divorce est la rupture irrémédiable des liens du mariage. Elle est constituée par l'un des constats suivants. L'adultère, une conduite incompatible avec la vie commune, une séparation d'au moins 2 ans si elle a été approuvée par les deux conjoints ou de 5 ans s'il n'y a pas consentement. On le voit, les conditions du divorce sont plutôt restrictives en Angleterre où le divorce par consentement mutuel n'est jamais entré en vigueur, notons-le, malgré le vote d'une loi l'instaurant en 1996. Et pourtant, on ne peut pas dire que les Anglais divorcent moins que les Français. Tout cela incite à penser que les législations entourant le divorce influent relativement peu, sauf peut-être en Italie, sur la fréquence des divorces. Reste que la nouvelle procédure française est désormais l'une des plus informelles d'Europe.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
En Hongrie, il représente 7% de la population, sédentarisée depuis plusieurs siècles dans le pays. La majorité des Roms ne parlent d'ailleurs que le hongrois. Pourtant, leur intégration est toujours aussi difficile, notamment leur accès au logement. À Székesfehérvár, au sud de Budapest, de nombreuses familles roms louent un logement social. Beaucoup travaillent, mais gagnent de petits salaires. Une salissure pour la réputation de cette ville riche, selon le maire populiste, alors que les entreprises hongroises et multinationales y ont installé leur siège. Alors, les familles tziganes sont peu à peu expulsées de leur logement. Et c'est le reportage de Florence Labruyère.
Sur la grande place de la ville de Székesfehérvár, des effluves de vin chaud à la cannelle flottent autour du marché. Tout près de là, il y a un immense centre commercial avec des boutiques et des cafés. C'est là qu'Anita passe ses journées. D'origine tzigane, Anita, 47 ans, est impeccablement habillée et maquillée. Pourtant, elle est sans domicile fixe. Elle était locataire d'un logement social, mais la municipalité a résilié son bail et l'a expulsée en août dernier.
Je dors dans les cages d'escalier des immeubles, je vais me laver à l'hôpital public ou aux toilettes de la gare routière et pendant la journée, je vais au centre commercial.
Vous n'avez pas de la famille qui peut vous héberger ?
J'ose pas aller chez eux. Si on savait que je dors là-bas, ils risqueraient de perdre leur appartement. On les expulserait.
Erne Colompard a lui aussi perdu son logement social. Pourtant, cet homme de 49 ans est président du Conseil local des Roms, une institution culturelle créée par l'État. Depuis qu'il a été expulsé de son appartement, Erne vit dans son bureau. Il est persuadé que la municipalité de droite veut chasser les Roms de la ville.
Bien sûr, il y a aussi des familles non-Roms qui ont perdu leur logement social. Mais 85 à 90% des gens expulsés sont des Roms. C'est de la haine ethnique, c'est du racisme anti-tsigane. J'ai écrit à tous les partis, y compris aux socialistes. Je leur ai dit, on veut nettoyer la ville de ces Roms avant les élections de 2018.
Le maire de la ville n'a pas pu nous accorder une interview. C'est un conseiller municipal de l'opposition de gauche qui nous reçoit. Bien qu'il soit socialiste, Roland Marton défend la politique de la droite majoritaire. Pour lui, il ne s'agit pas du tout de racisme. Sur les 1000 appartements municipaux, 700 sont des logements sociaux. Il reconnaît que c'est insuffisant, mais la ville s'efforce de contenter tout le monde. Roland Marton.
Nous avons mis en place une nouvelle politique. Un locataire ne peut bénéficier d'un logement social que pendant 7 ans. Il y a 400 à 500 personnes sur la liste d'attente. Du coup, le logement social est devenu une aide temporaire. C'est pour ça qu'au bout de 7 ans, la ville ne renouvelle pas le bail. Il faut que les citoyens aient tous accès à tour de rôle à un logement à prix modéré. C'est la seule solution.
Il y a 20 ans, la commune avait déjà essayé de chasser les tziganes du centre-ville, mais de nombreuses manifestations l'en avaient empêché. Aujourd'hui, personne ne réagit. Seule une petite association, le Parlement Rome, défend les familles de Székesfehérvár. Mais cette association installée à Budapest a elle aussi beaucoup de problèmes. Elle vient d'être expulsée de ses locaux et ne reçoit plus aucune subvention. D'après son président, Alada Horvat, c'est parce que l'association est une voix critique du pouvoir.
On s'est clairement opposé à la rhétorique xénophobe du Premier ministre. L'an dernier, pendant la crise des réfugiés, il a osé dire qu'on ne savait pas qui avait laissé entrer les Roms en Hongrie il y a 600 ans. Et qu'il causait beaucoup de problèmes à l'État, et qu'avec tous les soucis qu'avaient les Hongrois, ils n'avaient pas besoin d'immigrer. C'est un discours raciste, et nous, le Parlement Rome, nous l'avons critiqué de manière très ferme.
Malgré son manque de moyens, le Parlement Rome continue à défendre les familles expulsées de Székesfehérvár. L'association a porté plainte auprès de la Haute Autorité contre les discriminations. La Haute Autorité étudie le dossier, mais elle n'a qu'un pouvoir consultatif.
Avec Stockmann, c'est l'un des plus grands magasins finlandais. Sokos fait sa petite révolution. Dans un pays où les fermes d'élevage sont encore nombreuses, l'enseigne vient d'annoncer qu'elle allait arrêter de vendre de la fourrure animale sous toutes ses formes. Les précisions de Pauline Curtet.
Attention, sujet sensible en Finlande. Dans un pays où il vaut mieux bien se couvrir pour résister aux températures glaciales en hiver, on n'interdit pas comme on veut la vente de peau de bête, même pour des raisons écologiques. La grande chaîne de magasins Sokos l'a appris à ses dépens. Après avoir annoncé ne plus vouloir vendre de fourrure afin, je cite, de respecter le bien-être animal, le groupe a dû faire marche arrière. Car la levée de bouclier ne s'est pas faite attendre, venant notamment du parti du centre, un parti largement soutenu par les zones rurales. Ils ont appelé au boycott de la marque. Sokos a donc largement changé son discours dès le lendemain de son annonce. Certes, la firme ne vendra plus de fourrures animales, mais seulement pour des raisons économiques. En effet, d'après un nouveau communiqué de presse, les fourrures ne se vendraient plus assez bien, exit donc les préoccupations sur le bien-être animal. Il faut dire que la Finlande compte encore de nombreuses fermes produisant de la fourrure de vison ou de renard polaire, près de 1000 en tout, qui traitent plus de 2 millions d'animaux chaque année. Et bien que dans les sondages, une bonne partie des Finlandais dit ne pas vouloir porter de fourrure, ces derniers ne sont pas contre cette industrie qui exporte la plupart de sa production vers l'Asie ou la Russie et emploie près de 5000 personnes dans le pays nordique. D'ailleurs, en 2013, une initiative citoyenne avait porté une loi jusqu'au Parlement visant à interdire les fermes à fourrure sur le sol finlandais. Elle avait été largement rejetée.
Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, à la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un peu de patience, les infos.
RFI, la sélection.